il y a bien, il me semble, dans le monde contemporain, une voire des guerres des images qui se livrent dans l'actuel. Alors évidemment, on peut penser d'emblée, lorsqu'on parle de guerre, à celle que mène Daesh, par exemple, en utilisant les mêmes procédés que les procédés hollywoodiens. C'est-à-dire quelque chose qui a vraiment à voir avec ce que Debord épinglait, il y a bien longtemps, dans la société du spectacle, dans lequel il avait, je pense, vraiment, il était tout à fait visionnaire. Donc une politique du spectaculaire qui vise à captiver, à couper le souffle, à sidérer, à rendre le spectateur captif. Cette guerre-là ne m'apparaît pas du tout étrangère à une autre guerre des images, sur lequel peut-être elle se fonde, probablement d'ailleurs, qui me semble de ce point de vue plus fondamental encore, antérieure, entre ce qu'on pourrait appeler l'imagerie de masse, l'imagerie largement dominante, dont l'imagerie publicitaire me semble paradigmatique, et qui contribue fortement, je crois, au façonnage des subjectivités contemporaines, et l'image d'art, qui elle est évidemment beaucoup plus minoritaire, et qui est subjectivante, qui appelle, disait Marie-Josée Monzin, la formation d'un regard. Voilà, je ferme la parenthèse. Alors moi, c'est évidemment de ce cinéma-là, je vais parler de ce cinéma-là, pardon, donc du cinéma dont on parlait un peu tout à l'heure, c'est-à-dire celui qui a à voir avec ce qu'on a appelé en France la politique des auteurs. Alors, il y a un deuxième point dont tu faisais mention dans ton introduction, c'était cette idée que peut-être il y a un nouveau regard qui est en train de se porter actuellement sur la rencontre entre psychanalyse et cinéma qui émerge depuis quelques temps. Et qui, alors, ce que je voudrais tenter, alors, non pas que j'ai eu la volonté de le tenter, ça s'est posé comme ça, j'en dirai un peu plus. Tu disais, il me semble que tu voyais trois tendances. Première tendance, du côté de l'analogie. Une deuxième tendance, du côté de la psychanalyse appliquée, qui est liée à la narrativité. Et une troisième tendance, qui est liée à le lien entre la séance analytique et la séance de cinéma. Alors, de mon côté, j'ai essayé d'appréhender cette rencontre dans le cadre de l'analyse filmique, autrement par ces trois tendances. Mais non pas du tout pour vouloir en sortir pour en sortir, hein, simplement parce que ce qui m'intéressait ne nécessitait pas de passer par là, de mon point de vue, puisque ce qui m'intéressait, c'est, dans le cadre toujours de cette analyse filmique, qu'est-ce que le cinéma peut nous apprendre qu'on verrait pas forcément avec la psychanalyse, ou qu'on verrait autrement. Voilà, qu'est-ce qui peut nous apprendre aussi, et plus particulièrement sur la chose psychique, sur les mouvements psychiques liés au mouvement des corps. Alors j'étais un peu embarrassé, j'en ai parlé également à Chantal par rapport à cette intervention, parce que j'avais plusieurs possibilités en tête, et j'ai réadapté mon intervention en fonction aussi de ce qui s'est déployé, de ce que j'ai entendu aussi de l'hétérogénéité de l'audience, et donc j'ai choisi finalement de laisser d'une part davantage de place à la discussion, de peut-être pas rentrer dans un entretien trop conceptuel, de commencer donc, en fait, de faire une synthèse entre les deux derniers articles qui ont été cités par Myriam, c'est-à-dire cette histoire de rencontre dans le cadre de l'analyse filmique, de passer assez brièvement là-dessus pour laisser la place aux questions, et de revenir à analyser avec vous, dans cette lignée, hein, évidemment, trois séquences de débat dont mon cœur s'est arrêté, pour conclure sur juste les bases des hypothèses que cette analyse de film a contribué à me permettre d'élaborer. Je laisserai aussi, du coup, cette conclusion, éventuellement, aux questions. Donc, du coup, ça m'amène sur cette, donc finalement, deux parties, une conclusion, quoi. Donc, la première partie est celle de cette rencontre entre cinéma et psychanalyse dans l'analyse de film. Ce qui me porte préalablement à poser deux questions. Dans l'analyse filmique, comment cinéma et psychanalyse peuvent-ils se rencontrer au mieux de leur puissance respective? Donc comment le théoricien, le spectateur, ou le chercheur, psychanalyste ou pas, hein, se référence à la psychanalyse aussi, peut-il opérer une rencontre avec l'œuvre filmique permettant des avancées théoriques? De mon point de vue, le texte qui fait vraiment fondement pour moi, peut-être un peu bizarrement par rapport à ce qui en a été dit jusqu'à présent, c'est le texte de Benjamin, Alors c'est un chapitre particulier de ce célèbre texte, hein, l'œuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique, c'est le chapitre 13, si ma mémoire est bonne, dans lequel il n'est pas du tout en train de parler, contrairement au reste du texte, de l'affadissement que produit l'image vis-à-vis de l'œuvre d'art. Là, au contraire, il vient faire quasiment l'apologie du cinéma et de la psychanalyse. Ce chapitre 13 est consacré véritablement à un parallélisme entre cinéma et psychanalyse. Et ce qu'il y dit, ce qu'il a reconnu très tôt, c'est le bouleversement opéré par ces deux découvertes, chacune dans leur singularité. Donc ce texte apparaît fondateur pour mon propos. Benjamin y écrit que ces deux découvertes synchroniques ont révolutionné le regard de l'homme, le regard que l'être humain pouvait porter sur lui-même et ses semblables. Donc on pourrait identifier là le socle qui peut faire rencontre. À partir de là, de mon point de vue, on pourrait identifier deux écueils dans le cadre de cette analyse filmique. Le premier écueil, on pourrait l'appeler l'écueil du surplomb. C'est-à-dire qu'à avoir avec la psychanalyse appliquée. Et le deuxième pourrait être celui d'un excès d'analogie. On a beaucoup parlé d'analogie. D'un excès de l'analogie, c'est-à-dire peut-être d'un excès de proximité. Quelque chose qui pourrait tendre dans cet excès du côté de l'illusion gemellaire. Et je rejoins de ce point de vue un article assez récent de Mireille Berton qui écrit « Le couple cinéma ». Psychanalyse, ainsi que son corollaire, film-rêve, continue de nos jours d'être appréhendé en termes d'isomorphisme et subordination du premier au second. La logique de la psychanalyse appliquée, dite appliquée, peut signifier et induire la mainmise d'un savoir constitué sur un objet passif, qui n'aurait, dès lors, aucun effet de retour, aucun effet de surprise. Dans la pire de ces émanations, la psychanalyse appliquée produit un effet de plaquage abstrait, un rapport de domination, et peut-être de potentielle confusion entre le concept et la chose, ainsi qu'une assignation de l'objet à la passivité. Le psychanalyste sait, et c'est avec ce savoir qu'il va dévoiler l'invisible du récit. On rate alors, il me semble, l'essentiel, ce que l'œuvre touche de l'indicible, touche du réel, touche de nouveau, d'inattendu et d'inexploré. L'autre écueil est donc peut-être celui de l'analogie en excès, qui peut s'apparenter, je le disais, à l'illusion gemellaire. Un certain nombre de recherches, on le sait, sur le cinéma et la psychanalyse ont travaillé les contiguïtés que l'on peut identifier entre ces deux champs. Il y est question d'affinité élective de vocabulaire, comme de processus, projection, on l'a largement dit, projection, séance, écran, identification, représentation, la salle de cinéma où se projettent des rêves que l'on analyse et qui seraient comparables au processus analytique, etc. Toutes ces démarches ne sont évidemment pas, c'est pas du tout mon propos, à dénigrer une Toto, hein, plus particulièrement en ce qu'elle travaille du côté de l'analogie, tout en reconnaissant les limites propres à celle-ci. On peut difficilement faire autrement pour appréhender la question. Mais dans le cadre de l'analyse de film, ce parallélisme semble assez peu fructueux. C'est en cela, je crois, pour reprendre, que l'on peut donner raison à Freud, je vais reprendre la citation de que faisait Jean-Pierre Kanienhark. Alors, ma principale, donc c'est Freud, ma principale objection, quant au cinéma, reste qu'il me paraît pas possible de faire de nos abstractions une représentation plastique, qui se respecte un tant soit peu. Si, comme je le pense, nos abstractions équivaut ou envoient à l'inconscient, il apparaît effectivement que le cinéma, pas plus qu'un autre rôle, qu'un autre art ne saurait, stricto sensu, représenter l'inconscient. Il y aura très probablement toujours quelque chose d'irreprésentable dans l'inconscient, et c'est heureux. C'est pour ça qu'on en reparlait juste après votre intervention passionnante. Je me demande dans quelle mesure, et je pense que c'est pas du tout contradictoire avec notamment les enjeux subjectifs dont vous parliez, dans quelle mesure il n'y avait pas aussi un enjeu politique à ce moment-là. C'est-à-dire qu'on sait bien que la psychanalyse se heurtait à nombre de résistances, et que il puisse y avoir une représentation, une tentative de représentation plastique de l'inconscient, avec tout l'affadissement que ça pourrait générer, pouvait être considéré par le père de la psychanalyse comme tout à fait problématique. La proximité que l'on peut établir entre l'art cinématographique et les processus primaires, ça, alors peut-être pour répondre à la question dont vous parliez tout à l'heure, je vais y venir, mais ce qui est certain, c'est que s'il y a une écriture cinématographique, ce que je pense, elle use considérablement de ces deux éléments absolument essentiels qu'on a identifiés dans le rêve, puis dans les processus hystériques, c'est-à-dire les processus primaires, à savoir déplacement, condensation, donc métaphore, métonymie. Et s'il y a deux éléments qui sont hyperactifs, je vais le redire après, dans l'écriture cinématographique, c'est bien cela, il me semble. Donc que l'art cinématographique utilise très largement les processus primaires ne lui donne pas pour autant le pouvoir de figurer l'inconscient. Cela ne signifie pas que le cinéma n'est pas en mesure de saisir et de donner à voir et à sentir, quelque chose des conflits inconscients d'une manière qui lui est absolument intrinsèque. Dans cette lignée, le parallélisme le plus établi, donc, est celui du rêve, qui vaut pour la rêverie diurne, comme on vient de le dire de nouveau, où on se fait son cinéma. Analyser un film comme on analyserait un rêve, c'est, il me semble, confondre une production de l'inconscient avec la production d'une œuvre de création et de chercheur qui est, pour une part significative, évidemment consciente. Cela n'exclut pas, bien entendu, comme je le disais, que les processus de condensation et de déplacement soient essentiels dans une œuvre filmique. En somme, ces deux points de butée que je viens de nommer ne renvoie-t-il pas à ce qui est susceptible d'empêcher la puissance de toute rencontre? Un excès d'écart qui ne reconnaît pas la puissance intrinsèque du cinéma, d'un côté, c'est-à-dire l'écriture filmique et la manière dont celle-ci peut interroger, mettre en question, surprendre, voire modifier et enrichir le regard analytique, et de l'autre un excès de proximité dans lequel le régime, parfois peut-être confusionnel, tend à dissoudre la singularité et donc la puissance de chacun de ces champs. Il me semble ainsi, dans ce cadre de l'analyse filmique, plus porteur de considérer, selon le mot de Freud dans la Gradiva, les œuvres cinématographiques comme des alliés, et de les suivre pour s'y laisser surprendre. Pour le coup, je pense qu'on peut faire l'analogie avec le processus de la cure, c'est-à-dire suivre les patients, suivre l'œuvre filmique. Freud a ainsi parlé maintes fois du travail artistique comme devançant, je cite, celui du scientifique, et comme étant ainsi non pas un objet de prédilection, mais un précieux allié de la psychanalyse. Je le cite dans la Gradiva, « Les écrivains sont de précieux alliés et il faut placer bien haut leurs témoignages, car ils connaissent d'ordinaire une foule de choses entre le ciel et la terre, dont notre sagesse d'école, dit-il, n'a pas encore la moindre idée. Ils nous devancent de beaucoup. Nous autres hommes ordinaires, notamment en matière de psychologie, parce qu'ils puisent là à des sources que nous n'avons pas encore explorées pour la science. Il se joue donc, comme dans tout enjeu de rencontre, il me semble, la problématique du juste écart, de la juste distance qui suppose de reconnaître suffisamment l'altérité et les points de jonction des deux altérités, des deux entités, des deux altérités aussi. Peut-être en passant comme ça, j'ai une association qui me vient. Bon, la citation de Freud qui vaut pour les écrivains, ce que je vais soutenir ici, c'est qu'il y a une écriture filmique. Donc je pense que ça se soutient tout à fait pour l'œuvre cinématographique. Après, la citation de Freud, je la trouve très belle. On pourrait aussi considérer qu'elle pêche un peu par modestie, parce que je pense que tout grand penseur est un artiste. Et que, notamment, pour revenir sur, pour continuer un petit peu sur la question de la métaphore, que bien souvent la puissance de pensée se mesure à la puissance métaphorique, et que chez Freud, il y a un nombre absolument considérable d'usages de la métaphore qui sont puissamment éclairantes. Moi, celle qui me revient toujours en tête, alors peut-être parce qu'elle m'a marqué plus particulièrement dans un effet de rencontre, c'est l'ombre de l'objet tombé sur le moi, par exemple. Reconnaître que les cinéastes et les œuvres filmiques peuvent permettre de saisir des choses que l'on ne pourrait saisir sans eux, est donc absolument fondamental. Les cinéastes sont des chercheurs, les cinéastes auteurs sont des chercheurs, dont certains, plus spécifiquement sur la chose psychique, en tentant essentiellement d'en saisir quelque chose par la création d'un espace phénoménologique qui donne à voir et à sentir les élans et conflictualités humaines. Bon, dans l'article qu'a cité Myriam, je l'ai fait beaucoup parler, donc je vous renvoie à cet article. De quelle manière eux-mêmes, un certain nombre d'entre eux, dont Bergman, dont Buñuel, dont Pasolini, se définissent comme des chercheurs sur la chose psychique. Peut-être le préalable absolument fondamental dont a déjà parlé Pascal, c'est de reconnaître effectivement qu'il y a une écriture intrinsèquement cinématographique. Et que cette écriture intrinsèquement cinématographique, eh ben, elle appelle la formation d'un regard. Effectivement, on n'est pas à même de regarder, de voir un film dans toute la puissance de son expression intrinsèquement cinématographique, sans une certaine éducation, sans avoir avalé un certain nombre de films, sans avoir confronté son regard avec celui du voisin, et parfois avec celui du voisin érudit en la matière. Alors, je vais là être extrêmement condensé et essayer d'en extraire la substantifique moelle. De quoi est composée cette écriture intrinsèquement cinématographique? Donc de signifiants imaginaires, on pourrait dire, avec Christian Metz. Moi, je préférerais dire, je vais y revenir, avec Julia Kristeva, signifiants non phonématiques. D'image mouvement et d'image temps, avec Deleuze. Je trouve que ça serait très intéressant d'enrichir la formule de Deleuze d'image mouvement par image mouvement son, tant le son est absolument capital dans une œuvre filmique. De cadrage, donc, et ça c'est de plan serré, on en a parlé, de plan large, de panoramique, de plan séquence, de plan américain, le hors-champ qui a une dimension extrêmement importante, évidemment la lumière, évidemment le montage, et on pense à Kouletchov, on appelle l'effet Kouletchov, c'est trois plans, hein, ou plutôt trois séquences, pas trois plans, pardon, trois séquences composées d'un plan en commun. Le plan en commun, c'est l'image de l'acteur Mozhukin, je crois qu'il s'appelle, dont le visage est impassible. Mais donc ces trois séquences sont composées de la manière suivante. On commence à chaque fois par ce plan du visage de l'acteur Mozhukin, impassible. Le premier plan, je le dis un peu dans le désordre, la première séquence est montée avec un plan de soupe fumante. La deuxième, je crois qu'on y voit une petite fille dans un cercueil. Et le troisième, c'est une femme allongée de manière lascive. Évidemment, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait que l'écriture, le montage est une écriture? C'est un moment d'écriture absolument fondamental. Eh bien, en regardant chacune de ces trois séquences, on n'interprète pas du tout de la même manière le visage de Mozhukin. Dans la première séquence, on y voit de la faim. Dans la deuxième séquence, on y voit de la tristesse. Dans la troisième séquence, on y voit du désir. On pourrait considérer un peu schématiquement, parce qu'il y a plein d'auteurs qui s'y prennent différemment, qu'il y a fondamentalement trois temps d'écriture dans la production d'un film. L'écriture scénaristique, l'écriture filmique et l'écriture qui s'opère au montage. Alors je dis que c'est très schématique, parce qu'il y a des auteurs qui vont être susceptibles de partir avec un scénario qui ne sera pas surécrit comme c'était le cas, enfin surécrit, extrêmement maîtrisé comme c'était le cas d'Hitchcock, qui disait qu'il aimerait bien passer ses films dans une machine IBM et ne pas s'encombrer avec l'écriture filmique à proprement parler. Il y a un certain nombre d'auteurs qui, comme Ozon, enfin comme beaucoup d'autres, peuvent être dans un scénario qui va se réécrire au moment de l'écriture filmique, par exemple. Ou alors je pense aussi au moment du montage, j'ai un trou de mémoire, ce film épique, bon, ça me reviendra peut-être plus tard, hein? Non, quelque chose de plus récent, ça me reviendra plus tard, enfin, un montage qui a duré des années, des années, des années, où il y avait des enjeux d'écriture très compliqués. Je crois qu'il n'y a pas qu'un exemple, hein, mais il y en a évidemment plusieurs. Non, c'est le film auquel je pense, c'est ce grand comédien qui a aussi réalisé, américain et peintre aussi, qui a un film de 68, sur la route, qui a un peu une revisite à la Kerouac. Hein? Easy Rider, merci. Easy Rider, bon, en même temps, il devait être sous extase aussi pendant le montage, donc ça ne devait pas faciliter beaucoup les choses, mais... Bon, je continue. L'ellipse, évidemment que l'ellipse est un élément de l'écriture filmique absolument fondamental pour contribuer à ce qui se disait tout à l'heure, et que ce rapport à l'ellipse contribue considérablement au fait que le rapport à la condensation soit hyperactif dans l'écriture filmique. C'est-à-dire que, d'ailleurs, dans ce qui émerge, on en avait parlé, je me souviens un petit peu une fois avec Pablo, dans ce qui émerge, ce qui est très très intéressant au niveau des séries actuellement, qui je pense a commencé à émerger avec Twin Peaks, peut-être un peu avant, bon. S'inscrit beaucoup plus dans la durée. Du coup, c'est pas la même forme d'écriture. Il y a pas des effets de condensation aussi forts que dans l'écriture filmique, dans la série. Il y a un rapport à la durée qui est très très intéressant, hein, notamment The Wire, qui est quand même... Je sais pas si vous avez vu cette série The Wire, qui est mais vraiment, qui est un chef-d'œuvre absolument incroyable. Je vous engage à voir ce film qui, pour le coup, ce film. Voilà, le lapsus est fait, cette série, qui est composée de 5 saisons, qui est, pour le coup, assez peu psychanalytique. Je pense qu'il est beaucoup plus sociologique, anthropologique, voilà, avec des constructions de personnages, sont beaucoup plus des figures paradigmatiques, mais qui est absolument sublime, fascinant, et qui précisément n'utilise pas, ça qui est, il y a un rapport à la durée qui est très intéressant, ça n'utilise pas du tout le grand ressort addictif des séries actuelles, c'est-à-dire le cliffhanger, hein, qui vous prend, qui vous suspend. Non, il y a un rapport à la durée qui beaucoup de gens qui commencent à se mettre dans The Wire, moi je sais que je leur dis, attendez 3-4 épisodes. Parce qu'on est, dérouté par ce rapport à la durée, où il n'y a pas quelque chose qui nous accroche, qui nous suspend. Justement, quelque chose qui n'est pas pris dans la culture du spectaculaire qui est épinglé de bord. Je crois. The Wire, traduit par Surécoute. The Wire, qui est vraiment une œuvre incroyable. Donc c'était pour parler de l'ellipse et de la condensation dans les critiques filmiques. Et finalement, donc le déplacement et la condensation, qui sont, comme je le disais, hyperactifs dans l'art cinématographique. Alors, je disais, signifiant imaginaire, signifiant non phonématique, moi, je pense effectivement que de ce point de vue-là, Julia Kristeva a une expression qui me semble plus juste, plus porteuse, plus aboutie que celle de Christian Metz, hein, pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure. C'est-à-dire que la matérialité du signifiant étant diverse, elle n'est pas que phonématique. Il peut aussi bien passer par une image mouvement, une image temps, mais aussi un son, un objet, une couleur, ou alors encore évidemment l'expression d'un visage. J'aurais tendance à préférer cette expression de signifiant non phonématique parce qu'elle ne restreint pas sa portée à l'image. Elle y inclut le son dont je mentionnais tout à l'heure l'importance capitale. Peut-être aussi de considérer, lorsqu'on appréhende une œuvre cinématographique, mais finalement comme n'importe quelle œuvre d'art, que rien n'est contingent. Un plan n'est pas isolable du reste du film, évidemment, et que chaque intention soit nécessaire et non contingente en art, y compris celle que l'on rend au hasard, apparaît comme évident. Ainsi en est-il pour le cinéma. Il s'agit de considérer chaque plan, chaque cadrage, chaque composition spatiale, l'usage du hors-champ, chaque ellipse, chaque montage, le traitement du son et de la lumière, etc., comme étant significatifs et en rapport, en logos les uns avec les autres. Je crois que j'en parlais à un moment donné, de rappeler que le logos ne renvoie pas seulement à la parole, à la raison, voire à la science, mais également au rapport, à la mise en rapport. Donc je disais que le déplacement et la condensation sont hyperactifs dans l'art cinématographique, à savoir donc que chaque signifiant non phonématique est à considérer comme potentiellement sursignificatif, puissamment polysémique, autant que renvoyant à d'autres choses, à d'autres signifiants au sein de l'œuvre, en opérant ainsi des déplacements qui peuvent même se déployer tels des rhizomes, dirait Deleuze. C'est pour ça que c'est très compliqué, je pense, de vouloir analyser, par exemple, une séquence en l'isolant du reste du film, évidemment, mais parfois même du reste de l'œuvre de l'auteur en son entier. Alors, pour revenir sur cette histoire des commencements, et peut-être pour le coup de la préhistoire de ces deux découvertes synchroniques, il me semble qu'il y a un parallèle qu'on fait, je crois, vous le direz peu souvent, qui serait de considérer qu'au commencement de ces deux champs d'appréhension de l'homme était le réel décor. Ces deux découvertes sont nées de s'être intéressées au mystère des corps dont l'élucidation échappait aux sciences de l'époque. Ce qui échappait à la saisie par le symbolique comme par l'imaginaire. L'un va travailler à déchiffrer ce réel du côté du symbolique, davantage du côté du symbolique, l'autre du côté de l'imaginaire, et tous deux naissent de cette confrontation au réel, à un impossible, un irreprésentable, un insensé. Pas de métapsychologie sans clinique, pas de cinéma sans corps réel. Je veux dire par là, au niveau de la préhistoire, c'est qu'à la même époque où Freud assiste aux célèbres mises en scène des corps orchestrés par Charcot, hein, en sachant évidemment que, je veux dire, la psychanalyse naît du fait que l'hystérie échappe à la médecine. Ces manifestations de conversion hystérique sont incompréhensibles par la médecine, et c'est ce qui va permettre la naissance de la psychanalyse par la lecture de une lecture du visible qui va passer par l'invisible, c'est-à-dire l'invisible des enjeux inconscients. Donc à la même époque où Freud assiste aux mises en scène de Charcot, Louis Bridge et Marais vont s'attacher à percer ce mystère familier des mouvements du corps. Tous deux seront rendus célèbres par leurs travaux de décomposition des mouvements du corps, des hommes comme des animaux, qui vont permettre aux chercheurs de l'époque de réaliser que l'on ne pouvait identifier clairement les mouvements des corps avant cet éclaircissement que va offrir l'image mouvement, en l'occurrence. Hein, je pense que vous voyez tout ça. Par exemple, il y avait des mouvements de chevaux. On était absolument persuadé que tel mouvement était impossible. Et en fait, c'est grâce à l'image mouvement qu'on s'est rendu compte qu'on était dupe de notre perception, si je puis dire. Donc, il y a d'emblée deux regards posés sur l'homme, sur le corps des hommes, qui vont tenter d'en percer quelque chose par des points de vue qui sont d'une certaine manière opposés. L'un dès sa préhistoire, le cinéma va tenter de percer quelque chose du mouvement des corps par la création d'un appareillage qui va éclairer le visible tel qu'on ne pouvait le voir auparavant. L'autre, la psychanalyse, va fonder sa découverte en exploitant l'inintelligibilité de certains mouvements du corps, ceux de l'hystérique, en les éclaircissant par les enjeux invisibles qui les déterminent. Les deux vont donner à regarder et à entendre le réel tel qu'il ne pouvait être vu et entendu auparavant. Donc à la généléité, comme au surplomb, préférons, si vous me permettez le jeu de mots, les jumelles. La psychanalyse comme le cinéma font voir, non au sens de l'œil, ça a été largement dit, mais au sens du regard, pour reprendre donc cette schise que marquait Lacan entre l'œil et le regard, entre la vision et le regard. Donc au sens de la modification des regards. Pour le dire très simplement, avec le cinéma et avec la psychanalyse, l'homme ne s'est plus regardé et entendu de la même manière. Finons la métaphore, ils font même voir de manière exacerbée ce que bien souvent, ce qui bien souvent ne pouvait être vu. L'une, notamment, trop via le pathologique, cette idée de, qu'il n'y a pas de frontière entre le normal et le pathologique est une exacerbation de la normalité, permet de mieux voir, et je mets évidemment les guillemets, le normal, la psyché, dans son ensemble, encore entre guillemets, l'autre, par l'écriture cinématographique, permet de voir et revoir les mouvements de ce que j'aurais envie d'appeler les corps psychés, et les interactions entre les corps psychés, souvent insaisissables dans le réel. Donc, conclusion sur cette première partie, la rencontre des regards. Alors, je vais citer Slavoj Žižek, qui dit dans son, où est-ce qu'il dit ça déjà, dans son documentaire « Le guide pervers du cinéma », si vous cherchez ce qui, en réalité, est plus réel que la réalité elle-même, regardez du côté de la fiction cinématographique. Damet a beaucoup dit des choses comme ça aussi. Donc ce qui signe, ce qui signe, il me semble, l'œuvre d'art, c'est cette singularité affirmée, cette brèche qu'elle ouvre, à la fois en ce qu'elle est unique, à nul autre pareil, s'inscrivant dans un univers propre à l'auteur, à son regard, et possédant en elle-même son propre univers, tout en touchant à l'universel en ce qu'elle cerne un effet du réel, voire qu'elle le touche ou le perce en un point et sous une forme qu'aucune autre forme n'aurait pu toucher. L'art cinématographique tend à cerner des points d'ineffable par l'écriture cinématographique. Des points d'ineffable, ce que les mots ne sauraient dire ou qu'ils diraient différemment. Sur un plan phénoménal se déroulent, via l'image mouvement et l'agencement des signifiants non phonématiques, des rencontres, des accidents, des états de changement, du désir en mouvement qui se donne à voir et à ressentir dans une temporalité scandée par l'ellipse et une spatialité au sein desquelles la condensation, le déplacement, le point de vue prennent une part essentielle. Donc peut-être que dans ce cadre de l'analyse filmique, la rencontre visée entre le chercheur psychanalyste ou se référant à la psychanalyse et l'œuvre cinématographique, c'est la façon dont cette œuvre va cerner un même point d'impossible, un effet de réel par ses outils intrinsèques de recherche et d'expression artistique. Et peut-être plus encore, bien que plus rarement, ce que l'œuvre a cerné que la psychanalyse n'avait pu saisir ou n'aurait pu saisir autrement que par le langage cinématographique émanant du regard de l'auteur de cette œuvre. Pour arriver à la conclusion de cette première partie, je vais vous citer Walter Benjamin, donc dans le fameux chapitre dont on parlait. Il est bien clair, dit-il, par conséquent, que la nature qui parle à la caméra n'est pas la même que celle qui parle aux yeux. Elle est autre, surtout parce que, à l'espace où domine la conscience de l'homme, Elle substitue un espace où règne l'inconscient. S'il est banal d'observer sommairement la démarche d'un homme, on ne sait rien, assurément, de son attitude dans la fraction de seconde où il allonge son pas. Nous connaissons en gros le geste que nous faisons pour saisir un briquet ou une cuillère, mais nous ignorons à peu près tout du jeu qui se déroule réellement entre la main et le métal, à plus forte raison des changements qu'introduit dans ces gestes la fluctuation de nos diverses humeurs. C'est dans ce domaine que pénètre la caméra, avec ses moyens auxiliaires, ses plongées et ses remontées, ses coupures et ses isolements, ses ralentissements et ses accélérations de mouvement, ses grandissements et ses réductions. Pour la première fois, elle nous ouvre l'accès à l'inconscient visuel, comme la psychanalyse nous ouvre l'accès à l'inconscient pulsionnel. Alors, si l'on ne peut pas, il me semble, réduire l'inconscient freudien à l'inconscient pulsionnel, et que la formule d'inconscient visuel peut sembler un petit peu psychanalytico-morphique, ce que l'on retient dans le parallélisme de Benjamin, c'est d'avoir vu, très tôt, que psychanalyse et cinéma ouvraient des champs de regard et d'écoute de ce qui ne pouvait être vu et entendu jusqu'alors, et que ces champs pouvaient être puissamment complémentaires. Partant, j'aime beaucoup cette idée que lier harmonieusement cinéma et psychanalyse, c'est ouvrir une double focale. Deux focales qui, lorsqu'elles se rencontrent, tentent à articuler l'invisible au visible. L'invisible des enjeux inconscients, au visible couvre l'image-mouvement et l'écriture filmique. La psychanalyse attrape par l'invisible ce qui est inexplicable dans le visible, le cinéma rend visible et sensible ce qui ne pourrait l'être sans lui. Alors, tout ça, évidemment, n'élude absolument pas la question de la rencontre subjective, et notamment la rencontre subjective avec une œuvre. Pour autant, l'invisible que le cinéma peut rendre visible ne devient intelligible que par la rencontre des regards. Regard du cinéaste, qui donne à voir et à sentir par l'écriture filmique, regard du spectateur, acteur, actif, chercheur, qui se dévoile en rencontrant le regard de l'auteur. L'effet de rencontre engage donc nécessairement la subjectivité du spectateur comme celle du chercheur. Qui dit regard dit évidemment subjectivité. Alors, je pense aussi évidemment beaucoup au travail de Rancière par rapport à ça, notamment dans Le spectateur émancipé. Enfin, cette idée qu'une œuvre d'art, justement, ça laisse sa liberté au spectateur. Hein, contrairement à... Alors, pareil, je voudrais pas du tout rentrer, j'étais effectivement dans cette logique un peu binaire, bon, mauvais film, parce qu'il y a, je veux dire, il y a tout ce que dit Scorsese, hein, sur les flibustiers, sur comment est-ce qu'il y a eu énormément de cinéastes qui ont composé avec Hollywood pour en subvertir quelque chose, et il y aurait énormément de choses à dire là-dessus. Pas du tout mon propos que de dire ça. Par contre, mon propos, c'est de dire tout de même que quand on est du côté d'une œuvre qui tend vers l'écriture cinématographique, qui tend vers l'œuvre d'auteur, vers l'œuvre d'art, eh ben, je pense que celle-ci, justement, ne rend pas captif le spectateur. Elle laisse pleinement sa liberté au spectateur. Elle est puissamment polysémique, et notamment la lecture que je vais vous proposer de Debattre, mon cœur s'est arrêté, c'est une lecture. Donc l'effet de rencontre engage donc nécessairement la subjectivité. Alors, il y a un aphorisme qui reprend très largement ce que Pascal disait, notamment à partir de Lacan, de Serge Danet, que j'aime beaucoup, qui dit « Un film, ça nous regarde au moins autant qu'on le regarde. » Un film, ça nous regarde au moins autant qu'on le regarde. Donc, rencontrer un film est potentiellement subjectivant. Les films que nous rencontrons nous regardent, nous réfléchissent et nous altèrent. Ces films qui nous meuvent ne nous regardent pas comme identiques. Leur regard ne renvoie pas du même qui fige et rend statique. S'il y a rencontre profonde, bouleversante, c'est que ces films nous altèrent. Ils regardent notre altérité, étrangère à nous-mêmes. C'est là où, à la limite, je serais assez d'accord pour rejoindre de ce point de vue Guattari qui disait « Le cinéma, c'est la psychanalyse de masse ». Je trouve qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, effectivement. Bon, donc je vais en venir à, justement, à une histoire de rencontre. Parce que le film dont je vais vous parler, je considère pas... Moi, j'aime énormément ce film, de Battre mon cœur s'est arrêté. Je considère pas du tout pour autant que ça soit un chef-d'œuvre de l'histoire du cinéma. Mais je trouve que c'est un très très bon film. Et en tout cas, j'ai éprouvé, moi, un effet de rencontre pour différentes raisons avec ce film. Je vais donc m'attarder sur trois séquences, passer un petit peu de temps, en particulier, alors, à la fois parce que ce sont des séquences clés du film, mais également, et peut-être surtout, en l'occurrence, parce qu'il me semble que ces séquences peuvent être particulièrement éclairées par un regard analytique. En un mot, parce que ici, l'effet de rencontre me semble pouvoir être particulièrement fructueux. Alors, il faut, avant d'y venir, il faut que je vous dise quand même quelques mots sur le film et sur le contexte et l'effet de rencontre que j'ai eu avec celui-ci. Donc, De battre mon cœur s'est arrêté, film de Jacques Audiard, donne à voir, il me semble, et à sentir, le mouvement d'émancipation d'un jeune homme qui incarne une forme de subjectivité contemporaine. Ça, ça rejoint un petit peu la parenthèse, ma parenthèse introductive. C'est que je pense que ça a tout à fait à voir, cette subjectivité contemporaine, avec le pouvoir des images et le pouvoir qui est fait aujourd'hui dans ce qu'on pourrait appeler, il me semble qu'on vit dans une forme d'iconocratie, qu'on prend le pouvoir par les images, très largement, hein, très très largement, et que cette guerre des images dont je parlais, qui est beaucoup plus silencieuse, finalement beaucoup moins visible, paradoxalement, que celle qui est opérée par Daesh, est néanmoins extrêmement opérante. C'est-à-dire qu'elle est, extrêmement opérante en tant qu'elle est tout à fait invisible dans le visible. Je pense que cette omniprésence de l'imagerie publicitaire sous énormément de formes, qui, je vais aller très vite, à mon avis, est absolument tautologique. C'est-à-dire que pourquoi est-ce que là, je vais convoquer de nouveau Marie-Josée Monzin, c'est-à-dire qu'elle fait une différenciation assez fondamentale entre ce qu'on pourrait ranger, je suis assez schématique, du côté de l'imagerie et ce qui est du côté de l'image. C'est-à-dire que une partie de son travail, il me semble, ça a été, tout en reconnaissant pleinement la puissance de la pensée de Debord, la puissance de la pensée visionnaire de Debord dans la société du spectacle, hein, dans cette culture du spectaculaire qui vise, encore une fois, à captiver, à couper le souffle du spectateur, etc. Une grande partie de son travail, ça a été de restaurer la puissance de l'image. À quel point l'image, précisément, peut être subjectivante. À quel point elle appelle la formation d'un regard. Mais l'image dont on parle ici, en dernière analyse, est justement référée à l'image artistique, à l'image d'art. À côté de ça, il y a ce qu'on pourrait ranger, peut-être un peu schématiquement, du côté de l'imagerie. Or, ce qui me semble donc tout à fait dominant dans cette imagerie de masse, et tout à fait paradigmatique de cette imagerie de masse, c'est l'imagerie publicitaire. Et je disais qu'elle est tautologique pour une raison très simple, c'est qu'elle a une visée, et elle sert un discours. Et le discours qu'elle sert, il me semble, c'est celui que Lacan avait épinglé comme étant le discours du capitalisme. Je pense que si on déconstruit, hein, véritablement les publicités, c'est un travail que j'ai essayé de faire par ailleurs, finalement on se rend compte qu'elles ne cessent de dire la même chose, à savoir, grosso modo, vous pouvez jouer sans limite à condition d'y mettre le prix. Et que ça occupe dans les subjectivités contemporaines, je crois, un pan extrêmement important des problématiques psychopathologiques qu'on rencontre bien souvent dans tout ce rapport aux états limites. Moi, je pense que c'est pas un hasard si on a vu apparaître une modification des grandes conflictualités, d'abord aux États-Unis à la fin des années 50, et puis dans les années 60-70 en France, ce qu'on a appelé les états limites ou les pathologies du narcissisme. Je veux dire, ça s'est opéré, je pense, grandement avec une massification de son rapport à l'image. Je pense que c'est tout à fait lié. Bon. Donc je disais que le film donne à voir et à sentir le mouvement d'émancipation d'un jeune homme qui incarne une forme de subjectivité contemporaine. Le personnage de Tom, comme celui de son père, viennent incarner des figures de l'actuel malaise dans la culture. Leur quotidien vise un éprouvé de jouissance continue, toujours plus intense, jouissance sexuelle, jouissance de la rapidité, de la conquête, de la possession, de la violence et du pouvoir qu'il exerce sur les autres. Ce film, constitué de très nombreux plans-séquences, est construit quasi exclusivement, ça c'est intéressant, sur et depuis le regard de ce jeune homme. Quasiment tous les plans sont soit subjectifs, donc on voit depuis son regard, soit portent sur son regard, on regarde son regard. C'est d'une certaine manière véritablement un portrait en mouvement d'un mouvement d'émancipation. Or, il m'apparaît qu'il n'y a de mouvement d'émancipation, ça je laisserai ça aux questions, qu'il n'y a de mouvement d'émancipation que d'émancipation des rapports de pouvoir. Par émancipation des rapports de pouvoir, que je définirai un peu plus loin, donc dire émancipation des rapports de pouvoir, pardon, c'est, je crois, une tautologie. C'est dans le contexte de la rédaction de ma thèse, donc dont le titre était « Rapport de pouvoir, narcissisme et image », que j'ai rencontré ce film. Et si, à suivre l'aphorisme de Danet, j'ai senti un effet de rencontre avec ce film, en tant qu'il me regardait, effectivement, je pense qu'il regardait aussi ma génération, c'est davantage encore en tant qu'il regardait mon objet de recherche qu'il m'a saisi, en dernière analyse. Enfin, tout ça, évidemment, lié, ça va de soi. Tom travaille, comme son père, dans ce que Audiard nomme l'immobilier véreux. Alors, je rappelle très rapidement que c'est un remake d'un film de James Toback qui s'appelle Five Fingers. Audiard se l'accapare totalement, ce film. Hein. Et le film de James Toback qui est intéressant me semble être assez inégal. Alors, dire que c'est un remake, c'est presque trop dire, d'ailleurs, parce qu'il le transforme quand même considérablement. Et d'ailleurs, il transpose le contexte du film qui se situe dans la mafia à l'immobilier véreux. Pas tout à fait inintéressant comme idée. L'exposition constitue un portrait de Tom, très exactement sur 24 heures de la vie quotidienne du jeune homme, avant qu'il n'entame cette dynamique de changement provoquée par une rencontre. Une série de rencontres. Ce que donne à voir l'exposition, c'est une course au toujours plus. Plus de jouissance, plus de femmes, qui sont figurées comme tout à fait interchangeables, plus d'argent et de conquêtes immobilières. Le jeune homme est dépeint dans cette exposition par une série de séquences très rapides, syncopées, comme sans limite. Sans limite outre celle fixée par son père pour satisfaire sa propre jouissance. Tom est figuré comme le prolongement narcissique de son père. Il est son instrument, emprisonné dans un régime qu'on pourrait nommer un régime dyadique et spéculaire. Il est construit à son image et à l'image du désir paternel. Le début du film le donne à voir dans un état de servilité face à son père, alors qu'il tend à exercer la toute-puissance de son désir face à tout autre. Le petit groupe d'amis et de collègues qui constitue son univers quotidien est exclusivement masculin et inscrit dans un rapport d'identité, de même-té, pour reprendre le néologisme Edricker de Pierrot Lamier, très fortement marqué. Ce petit groupe communautariste baigne dans un narcissisme primaire au sein duquel toute altérité tend à être bannie. Tom y fait régner la toute-puissance de son désir, comme son père règne sur lui-même. Tom va donc s'émanciper d'un rapport à l'autre qui n'est constitué que de rapports de pouvoir. J'entends, je vais en donner une définition assez brève, j'entends par rapport de pouvoir une modalité du rapport à l'autre qui tend à faire régner le désir et l'image du prétendant au pouvoir au détriment de celui qui le subit. Deleuze disait que la confusion entre le pouvoir et la puissance est ruineuse. Il disait même que le pouvoir est le plus bas degré de la puissance pour lui. Donc ce n'est pas du pouvoir de faire quelque chose dont je parle ici dans le rapport de pouvoir, qui en dernière analyse renvoie précisément à la puissance, hein, c'est-à-dire au fait que la puissance est une virtualité qui peut s'actualiser ou non. Ce à quoi je renvoie, c'est au pouvoir sûr. Le prétendant au pouvoir sur l'autre tend à désubjectiver celui-ci dans une plus ou moins grande mesure, évidemment, à le réifier pour en jouir sans réciprocité. Mais un tel pouvoir s'assoit rarement sans que celui qui le subit y participe. Il y participe par servitude volontaire, disait la Boétie, soulignant par cet oxymore cette forme de folie, ce paradoxe propre à l'homme qui tend à s'asservir lui-même. Ce mouvement d'émancipation va le porter vers et va être porté par une double découverte du travail et de l'amour. Évidemment, là je fais référence à ce que Freud a pu en dire, notamment dans la technique psychanalytique, et plus tard en 1926 dans Psychanalyse. Le parcours que dépeint Audiard peut apparaître héroïque. D'une certaine manière, il l'est, c'est une fiction. Pour autant, cette dimension fictive est pour nous troublante, car cette trajectoire filmée, extrêmement condensée, riche d'une multifactorialité, résonne à mon sens très fortement avec la clinique, et notamment la clinique des adolescents et états limites d'aujourd'hui. Et on sait bien le lien entre la problématique adolescente et la problématique des états limites. Le pouvoir de cette fiction réside peut-être dans le fait qu'on y trouve l'articulation d'une multitude de facteurs nécessaires à un tel mouvement d'émancipation que l'on n'a pas coutume de rencontrer d'un seul tenant dans la clinique. En tout cas, c'est le sentiment que ça m'a laissé. La première fois que j'ai vu ce... Pas la première fois, d'ailleurs. C'est marrant, la première fois, j'ai pas beaucoup aimé. Mais j'ai éprouvé le besoin d'y retourner, et d'y retourner assez rapidement. Et la deuxième fois, j'ai été effectivement saisi. Et ce qui m'est venu, d'une manière très condensée en voyant ce film, c'est, en paraphrasant l'aphorisme de Freud, là où la toute-puissance était, la puissance va devenir. Voilà vraiment la formule qui m'est venue en voyant ce film. Et que finalement, alors pas là ici, pas du tout complètement, mais qui va m'inspirer et que je vais essayer de déplier le plus possible. Tom va apprendre à remplir ses puissances, à développer ses capacités singulières. Finalement, on pourra en reparler, là j'emprunte un concept philosophique, et je le fais rentrer un petit peu dans une approche psychanalytique, on pourra en reparler. Et un concept philosophique qui est avant tout très largement développé par Spinoza. Pour que ce mouvement se déploie, il va devoir passer sous les fourches codines d'une séparation, d'une désidentification radicale avec un père qui incarne un modèle de toute-puissance tyrannique. C'est avec ce processus de désidentification, d'un dépassement d'un rapport à la totalité et à l'absence de limites, qu'un décloisonnement narcissique, un rapport à l'altérité, à la rencontre, va pouvoir s'ouvrir chez Tom. Alors, la rencontre à l'origine du mouvement, je vais en venir à la première séquence après ça, alors que Tom est pris dans des mouvements de répétition incessante, dans une circularité jouissive, va s'ouvrir un devenir inattendu. Et j'ai beaucoup pensé à un aphorisme qu'a forgé Marie-Josée Monzin, aussi. Le devenir, c'est la puissance de la rencontre. Un horizon autre que la névrose de destinée, dessiné en grande partie par son père, s'ouvre par là, les rencontres. Une première rencontre accidentelle, vraiment dans le sens de ce qui tombe, de ce qui survient, mais dont Tom va se saisir. En la personne de l'ex-impresario de sa défunte mère, qui était une grande pianiste concertiste. Fox rouvre, donc l'ex-impresario, rouvre Tom à la musique, au piano, qu'il a arrêté depuis 10 ans. Il le rouvre à un monde qualitatif, là où Tom baigne dans une course au quantitatif, en lui faisant une proposition d'audition. Cette proposition est porteuse de reconnaissance. Il reconnaît à Tom une qualité que celui-ci avait oubliée, refoulée peut-être, et qui est aux antipodes de l'univers qui constitue le quotidien à le regard de Tom aujourd'hui. Tom en demeure d'ailleurs tout à fait sidéré, comme sonné par ce regard posé sur lui, qui voit en lui ce qu'il ne pouvait pas ou plus voir de lui-même. Ce moment de reconnaissance ouvre un bouleversement. Alors c'est assez rigolo parce que la dimension accidentelle dans le film est largement appuyée. C'est-à-dire qu'il est en train de... On est à la fin de l'exposition, il est en voiture, avec sa musique à fond, etc. Et tout d'un coup, il voit quelque chose sur sa droite et donne un grand coup de volant et manque de renverser un cycliste qui passait sur sa droite. Et ce qu'il a vu, c'était sur un théâtre un nom. Le nom de cette personne, il y entre. Et il va voir cet ex-impresario qui va le reconnaître et qui va lui offrir donc ce regard de reconnaissance. Donc cette rencontre accidentelle inaugure un déraillement et déploie corrélativement l'objet d'une poursuite, l'audition. Plus Tom va poursuivre cet objet, plus il va se désajuster de ce qui constituait son univers. Fox a semé de l'altérité en introduisant de l'art et du travail dans un univers clos qui consomme en jouissant du travail et du corps des autres. Cette valeur purement qualitative, qu'est l'art musical, le travail considérable que cela implique, sont proprement incompréhensibles pour les amis et collègues de Tom. C'est très drôle, il y a un passage où il se met à jouer, il commence à répéter, donc il est beaucoup moins présent dans ses enjeux immobiliers, et à un moment donné il s'est fait recadrer par un de ses acolytes, qu'il dominait très très largement, et l'autre lui dit mais qu'est-ce que tu fais, tu fais du piano, mais pourquoi du piano, tu vas les vendre les pianos, fais des maquettes, enfin je sais pas, éclate-toi comme tu veux, mais arrête avec tes pianos, sois dans le coup un petit peu. Et c'est un moment, un des premiers moments où la désidentification opère, où Tom se rend compte que c'est absolument incompréhensible pour ces doubles narcissiques qui le constituaient jusqu'à présent. Ceux qui constituaient donc ces doubles narcissiques ne le reconnaissent progressivement plus. C'est un premier brouillage spéculaire qui opère. Tom devient flou, il déraille et ne voit plus, dans sa ligne de mire, que cette nouvelle trajectoire tracée en direction de l'audition. Ce qu'il ne sait pas, c'est que cette trajectoire ne sera pas rectiligne. Celle-ci le mènera bien plus tard vers un plus grand champ des possibles, vers un carrefour. Et cela est figuré cinématographiquement par Audiard. C'est-à-dire tout le film, à un moment donné, est tendu vers l'audition, un petit peu comme le principe du MacGuffin hitchcockien, sauf qu'on n'oublie pas. C'est-à-dire, le MacGuffin hitchcockien, on poursuit quelque chose, mais on oublie l'objet de la poursuite, en fait. Là, on n'oublie pas tout à fait, mais en même temps, on se rend compte que finalement, c'est absolument pas essentiel dans la trajectoire subjective de Tom. C'est-à-dire que, après l'audition, qui est un échec cuisant, c'est-à-dire que de toute façon, c'est un vrai fantasme de toute puissance, il a pas joué depuis 10 ans, il s'agit de passer une audition pour être un pianiste, soliste, concertiste. Enfin, voilà. En même temps, c'est très intéressant, parce qu'il y a toute la positivité, là, de la toute puissance. Ça le porte vers son désir. Et donc, c'est un échec. Et lorsqu'il sort, en fait, alors que tous les plans étaient extrêmement serrés, sombres, il sort sur un plan extrêmement large, très ouvert, littéralement sur un carrefour. Avec de la lumière qui éclaire son visage, avec un sourire, enfin, voilà, il y a quelque chose qui vient marquer quoi? Qui vient marquer probablement qu'il y a quelque chose de la castration qui opère, voilà, et qui libère son désir.
Toute première séquence
de la rencontre avec le père, qui se passe à la fin de l'exposition. La rencontre est donc très très courte. Cette séquence est donc très très courte et extrêmement condensée. Je reprends quelque chose très rapidement avec le photogramme. Comme vous voyez, Tom est filmé en contre-plongée extrêmement accentuée. Et on voit au-dessus de sa tête, figuré sur le plafond, le corps d'une femme au sein et au ventre rond. Arrive, juste au-dessus, le père, avec un visage assez particulier. Il fond, descend sur le fils, et on voit là un geste qui peut presque faire comme un effet de faux raccord, quand on le détaille. C'est-à-dire qu'on pourrait tout à fait penser, jusque-là, que le baiser va fondre sur la bouche et non pas sur le front. Bon. Alors, ça, c'est un plan... Bon, du coup, je vais assez vite. C'est un plan qui, déjà, condense énormément de choses de la problématique du fils. C'est-à-dire qu'on va apprendre plus tard que, donc, la mère est morte. Elle était pianiste concertiste. Elle est morte et le père a beaucoup méprisé cette femme, ne l'a absolument pas accompagnée sur son lit de mort, donc n'a pas fait un travail propre à accompagner un travail de deuil, et que manifestement beaucoup de choses nous donnent à voir le fait que Tom est pris dans un Oedipe inversé, qu'il est, je le disais, construit à l'image du désir de son père, et que le plan vient condenser le fait que là où il y aurait quelque chose d'une présence qui va apparaître vraiment sur un mode fantomatique. Il y a vraiment quelque chose de la mélancolie qui va être très très largement filmé par la suite. On verra Tom penser à sa mère en se biberonnant, en se balançant, etc. Et on voit donc là le père arriver, chasser la figure maternelle, fondre sur le fils avec un baiser tout à fait ambigu et évidemment à connotation manifestement incestuelle. Alors la deuxième séquence peut apparaître on ne peut plus anodine, et on pourrait faire tout à fait un lien avec ce que Deleuze appelle l'image-temps. J'y reviendrai peut-être après. Elle est très courte et se situe aux 2/3 du film. Après la 6e séance de répétition, je vous disais, je vais peut-être passer un peu rapidement là-dessus, que le film est constitué autour de 8 séances de répétition, comme une gamme, de dos à dos, et que celle-ci constitue d'une certaine manière la colonne vertébrale du mouvement opéré par Tom. Alors, avant d'y venir, il nous faut dire quelques mots du parcours de Tom jusque-là, ainsi que sur cette 6e séance. À ce stade du film, Tom a pris progressivement, non sans grande difficulté et déchirement, de l'écart par rapport à son père. La représentation fantasmatique d'une toute-puissance paternelle que Robert avait su maintenir jusqu'à présent dans l'esprit de Tom est considérablement entamée. Corrélativement, Tom commence à regarder son père différemment et à ne plus se reconnaître dans cet homme qu'il assignait à se conformer à son image et à son désir. Il approche le seuil d'un franchissement, celui d'un mouvement de séparation psychique, d'une élaboration de la castration qui ouvre de l'écart, du jeu.
La question de la respiration tient une place importante dans la problématique et les mouvements de Tom. La course à la jouissance qui caractérisait son mode d'être, la poursuite qu'on pourrait qualifier de toxicomaniaque, d'objet de jouissance, ne laissait aucune place à la respiration. Tout autant que la position écrasante du père étouffait Tom à son insu. Il ne pouvait y trouver un espace singulier. Lors des premières séances, Tom ne respire pas, première séance de répétition. Tom ne respire pas, ou mal, il est dans une recherche d'un plein immédiat. À la cinquième séance, alors qu'il est dans une temporalité de crise du fait de son désajustement de plus en plus radical vis-à-vis de ce qui constituait son univers et son socle, il explosera dans une forme de rage narcissique que sa répétitrice recadrera et contiendra fermement. Ainsi, la respiration corporelle, les changements de rythmes musicaux, l'espace laissé et donné à l'autre, le rapport aux limites, vont constituer une trame commune qui forme un enjeu majeur au sein des séances de répétition et dans le rapport à Miaolin, la répétitrice. Cela est tout autant traduit à l'image par le rapport au corps que par le cadrage. Les cadrages étaient, jusqu'à ce stade, serrés, étouffants, restreints et clos, à l'instar du monde et du regard de Tom, de sa clôture narcissique. Ce cadrage sourd s'élargit progressivement et notamment en faisant apparaître de plus en plus Miaolin à l'image. Plus Miaolin prend de la place à l'image, plus Tom intériorise ce qu'elle lui apporte, ce dont elle est porteuse. De l'altérité, du féminin, de la respiration, de l'espace pour lui, de l'air, et peut-être probablement de l'air transitionnel. Il faut voir quand même que dans cet effet, dans cette rencontre, hein, qui provoque vraiment ce mouvement de changement, il choisit d'en rencontrer quelqu'un qui est pour lui une figure de l'altérité radicale. Lui qui baigne dans une toute-puissance perpétuelle, dans un tressaillement pulsionnel incessant, rencontre une femme qui vient d'un des pays les plus lointains, qui est en, tout en douceur, en calme, en puissance, en mesure, en force de travail. Et il aurait très bien pu choisir de ne pas y aller, puisqu'au moment où il la rencontre, il se heurte à un problème, c'est qu'elle ne parle pas le français ni l'anglais. Donc tout l'échange va considérablement passer par un échange corporel. Corrélativement au mouvement de désidentification de Tom, à son père se déploie l'investissement d'un espace de co-construction avec Miaolin, un espace où le moi et le non-moi cohabitent, rentrent en tension et se dialectisent jusqu'à ce qu'apparaissent les limites de chacun. Premier moment de répétition avec Miaolin, il y a d'ailleurs une métaphore assez claire, la psychanalyse, on est dans une toute petite pièce, il y a un petit lit qui pourrait tout à fait ressembler à un divan, et Tom, qui est vraiment pris dans cette problématique qu'on pourrait qualifier d'une problématique d'état limite, hein, qui a besoin d'un objet anaclitique, dans un rapport au regard de l'autre qui peut être vécu comme tout à fait intrusif, choisit de placer Miaolin derrière lui, mais de telle manière que son regard soit orienté vers l'extérieur, c'est-à-dire de telle manière que son regard ne pèse d'aucune manière sur lui, hein, qu'il puisse contrôler son regard. Cette sixième séance s'ouvre ainsi sur Miaolin. Donc je vous disais, au départ, on est tout le temps sur des plans subjectifs, hein, ou alors sur des plans qui portent sur le regard de Tom. Là, c'est la première fois que la caméra s'ouvre sur Miaolin, ou depuis son point de vue. La caméra se focalise sur le regard qui appréhende Tom autrement et lui renvoie un reflet de lui-même qui le met au travail et contribue à le transformer. C'est avec cette même grammatologie cinématographique qu'au plan suivant, nous regardons Tom jouer depuis le point de vue de Miaolin. Son corps est détendu, relâché, ses mouvements sont souples, sa respiration est lente et rythmée en fonction de la musique. Son plaisir à jouer est manifeste. Tout en jouant, il regarde Miaolin en souriant. Tom s'ouvre dans le jeu, dans son rapport à son corps et à celui de l'autre. Devant lui, l'espace est grand, ouvert et lumineux. Ces séances de répétition ont ouvert un espace transitionnel où s'opère un travail de séparation psychique passant par le jeu, au piano, tout autant que par le style et le positionnement de Miaolin, qui va permettre que tombe, chez Tom, un régime dominant d'identification fusionnelle et projective, au profit d'un rapport à l'autre et à soi-même qui laisse du jeu. Du jeu également au sens de ce qui permet qu'il y ait de l'écart, et donc du mouvement. De la possibilité de cet écart, me semble-t-il, dans le rapport à l'autre comme à soi-même, se déploie la possibilité de mouvement de reconnaissance, de soi comme de l'autre. Dans l'exacte donc continuité de cette sixième séance de répétition, là on est à la fin de la sixième séance, hein, arrive cette courte séquence dont on pourrait penser qu'elle est tout à fait anodine. Donc un plan dont on pourrait penser, un peu rapidement, qu'il ne s'y passe rien, ou pas grand-chose. Ce que je pense, c'est qu'au contraire, il s'y passe beaucoup, et que c'est un moment tout à fait déterminant. Donc dans la cuisine, Tom et Miaoline prennent le thé. Dans le cadre, au premier plan, on amorce. La porte est grande ouverte. Tom est paisible, quasi immobile. Il détend sa main et réfléchit. Le regard fixe, perdu dans le vague, sans prêter attention à Miaoline, assise en face de lui. Elle se lève pour se servir du thé, sort du cadre. Donc je disais, Miaoline se rassoit après un petit laps de temps et Tom, dans un premier temps, ne réagit pas davantage. Puis dans un second temps, il lève les yeux, la regarde comme s'il réalisait sa présence, esquisse alors un sourire qu'il conserve en baissant les yeux et en revenant à lui-même. Tom était donc au début du film omniconscient du regard de l'autre et extrêmement sensible à celui-ci, dans un besoin irrépressible d'en contrôler quelque chose. Ici, apparaît, dans une capacité à être seul en présence de l'autre, dans un état de quiétude, d'immobilisme, dans un relâché pulsionnel tel qu'il ne l'avait jamais donné à voir et à sentir. De surcroît, on pourrait également voir, dans cette attitude et dans cette gestuelle, une forme d'émergence du féminin, chez celui qui semblait perpétuellement tendu par une érection d'impuissance. Ce que j'entends par ces deux jeux, alors l'émergence du féminin, je pense à la fois à ce que Le Sourd a développé du côté de l'adolescence, rencontre du féminin, je pense aussi beaucoup à ce que dit Deleuze du devenir féminin. Deleuze dit qu'il n'y a pas de devenir masculin, il n'y a qu'un devenir féminin. On pourra peut-être en parler plus tard. Et ce que je viens de marquer par ce petit oxymore, hein, perpétuellement tendu par une érection d'impuissance, c'est une manière de dire que la toute-puissance marque toujours une compensation illusoire d'impuissance. Là où on pourrait, dans une première lecture, laisser passer ce plan comme ça, comme quelque chose. On voit pas bien ce qu'il vient y faire, ce qu'il vient faire là. Hein. Je vous disais que je pense que quand on est dans une rencontre avec une œuvre filmique, rien n'est contingent. Et ce plan me semble aussi renvoyer à ce que Deleuze formalise comme étant du côté, on va dire du côté là, de l'image-temps. C'est-à-dire des phénomènes à l'écran qui, dans une première lecture, semblent ne servir à rien, qui ne rentrent pas, en tout cas, dans une causalité directe, qu'on va peut-être pouvoir saisir dans l'après-coup, qui ne rentrent pas dans la logique dramatique manifeste. C'est quelque chose que Deleuze va développer beaucoup avec Ozu, puis également avec le néo-réalisme italien. Il y a une durée qui ne paraît pas s'articuler sur les événements. Sans mouvement ou alors avec un mouvement qui est une forme d'errance. Voilà pour cette séquence. Donc la troisième séquence prend place peu de temps après. Entre-temps, Tom est allé observer le mafieux russe qui doit de l'argent à son père. Vers le milieu du film, Minskov, le mafieux russe en question, avait fait tabasser Robert, le père de Tom. Celui-ci en était ressorti pathétique, considérablement blessé dans son orgueil. C'est donc à partir de là que l'image du père, qu'il voulait toute puissante, a commencé à choir, à se rompre aux yeux du fils. Tom ressort de cette entrevue à distance avec Minskov, certain d'une chose, il faut lâcher. C'est là que commence la séquence qui sera la dernière rencontre entre le père et le fils. Tom vient de dire à son père la nécessité de reconnaître cette limite. Cependant, là où le fils lâche sur les fantasmes de toute puissance en reconnaissant une limite fondamentale dans la dangerosité de cet homme, le père ne reconnaît pas de limite et ne veut lâcher sur rien, ni sur son argent, ni sur son orgueil, ni sur le rapport de force avec Minskov, ni sur l'emprise qui fut la sienne sur son fils. De cette reconnaissance de la castration d'un côté, opposée à son déni de l'autre, va résulter une rupture, une désidentification, ce qu'on pourrait appeler une rupture spéculaire et identitaire. Tom s'explique et Robert exulte. Il ne peut plus reconnaître ce fils qui sort à ce point de son emprise et de son image. Il disait justement « c'est pas possible, je crois que tu deviens con, toi. Tu deviens vraiment con. » Il sort de la pièce. À l'image, juste avant le départ de Robert, le désajustement entre les deux hommes est rehaussé par l'utilisation de la lumière. Là, c'est très manifeste. Tom, assis dans le canapé, détendu et constamment dans la lumière, en face et debout, en tension, son père est à contre-jour, plongé dans l'obscurité. Lumière pour celui qui maintenant ouvre son regard et sort du tunnel qui l'emprisonnait, de son colon de paix, on pourrait dire. Obscurité pour celui qui y demeure, tant du point de vue de l'absence de lucidité que de son rapport à l'autre qui l'isole davantage encore et va le plonger définitivement en Thanatos. Robert mourra des mains de Minskov, car il repartira le voir. Aussi peut-on considérer que c'est de ne pas avoir su reconnaître ses limites, de ne pas avoir pu lâcher sur la dette, le contrôle, la toute-puissance que Robert mourra. C'est l'œuvre d'un narcissisme de mort, dirait peut-être Green. Tom, qui était à l'origine sous l'emprise du moindre chantage affectif et des aveux de son père, il y a pas mal de séquences hein, de ce côté-là où le père est dans un chantage affectif, parle, laisse sur place et le fils est défait au milieu du film. Donc du moindre chantage affectif et des aveux de son père n'est ici pas affecté par le propos et la sortie de celui-ci. Il sourit tranquillement de cette incompréhension et de ce fossé qui s'est creusé en dernière analyse. En dernière analyse, c'est probablement de se sentir libéré des griffes de son père qu'il sourit. Donc on arrive sur cette séquence qui est une construction filmique assez étonnante. Déjà, il faut vraiment le vouloir. Je ne sais pas si vous voyez, il se retrouve donc pour aller chercher son père en face des toilettes. Son père est parti, hein, juste après ce moment de rupture. Il est dans les toilettes, dans le cabinet de toilettes. Le fils va le chercher. Et il y a, très exactement à l'endroit où se trouve le père, derrière un petit miroir. Donc il appelle son père. Comme seule réponse, il entend la chasse d'eau retentir. On voit tout le long de la séquence, le visage de Tom, j'espère que vous le voyez, se refléter dans le miroir, à l'endroit où se trouve le père. Donc là, à ce moment-là, il entend la chasse d'eau retentir. C'est la seule réponse du père. Entendant cette réponse, il tourne les talons, résolument. On voit son visage se tourner, on le voit de dos, et ça, faut vraiment le faire sur un plan cinématographique. Et on va voir, jusqu'à sa sortie de la pièce, son reflet se réfléchir de dos. Donc la continuité de cette dernière séquence entre le père et le fils, à l'instar de la première, consacre, je trouve assez magistralement, toujours dans une très forte condensation, le conflit psychique et le mouvement qui s'est déployé entre les deux protagonistes. On peut voir, dans ce plan séquence, se jouer tout à la fois la sortie de ce que je propose d'appeler la dyade spéculaire et de la sphère de contrôle du père. D'une part, il sort du miroir aliénant qu'était son père, de son besoin de se conformer à son désir et à son image, et on passe ainsi d'une image réfléchie du visage de Tom à l'endroit précis où se trouve le père, à un dos tourné résolument jusqu'à ce qu'il sorte de la pièce. Le narcissiste de Tom se nourrit désormais d'un tout autre regard, d'un regard autre. D'autre part, son père, de par la seule réponse qu'il oppose, le retentissement de la chasse d'eau, le défèque sur un plan symbolique, l'extrait de sa zone de contrôle érogène. Tom, qui, quelque temps auparavant, était bouleversé lorsque son père le dédaignait, prend immédiatement la décision de tourner les talons, dans un mouvement de déterritorialisation paternelle affirmé, quittant aussitôt la pièce, puis l'appartement, sans colère, pour aller vers la possibilité, on le verra dans l'épilogue, d'aimer. Je ne parlerai pas de l'épilogue, mais... Voilà pour les trois séquences. Je voulais vous montrer ces séquences pour tous les motifs que j'avais évoqués ce matin, parce qu'il me semble que là, pour le coup, à partir de, justement, sans rentrer dans des logiques, ni d'analogie, ni de surplomb, mais en suivant l'œuvre, il me semble que le regard analytique amène un éclaircissement de ces séquences qu'on ne pourrait probablement pas avoir sans le regard analytique. Donc, d'où l'idée de cet effet de rencontre. Alors, par ailleurs, et pour conclure là de manière très elliptique, comme je vous l'avais annoncé, ce film, moi, m'a aussi saisi parce qu'il m'a permis d'associer considérablement avec ma clinique, notamment avec une clinique, justement, j'ai entre autres une clinique en lien avec une association qui s'appelle Métabol, je ne sais pas si vous connaissez, ou Télémite, voilà. Donc avec des adolescents qui sont placés par l'aide sociale à l'enfance, dans lequel on a une pratique tout à fait particulière qui pour moi est relativement, par ailleurs je travaille à la Maison Verte, qui pour moi est assez comparable à cette pratique. Pourquoi ? Parce que dans chacune, alors, la pratique à Métabol, pour aller très très vite, on a deux séances, hein, potentiellement en cabinet, mais si le lieu est trop anxiogène, si la relation duale est trop anxiogène, ou s'il se passe quelque chose dans la réalité qui a une forte portée symbolique, on est susceptible de travailler hors les murs. Hein, et donc de travailler davantage, je crois, la dimension phénoménologique. De quelle manière, par exemple, je vais donner un exemple bateau, mais un jeune, parce qu'on en a beaucoup, mais comme ça, un jeune qui est sans papier, qui va faire les démarches pour aller chercher des papiers, de quelle manière ça va être anxiogène pour lui, de quelle manière ça va jouer sur des enjeux identitaires, et de quelle manière tout ça va se traduire sur un plan phénoménologique dans l'accompagnement qu'on va faire avec lui. À la Maison Verte, il y a tout à fait quelque chose de cet ordre-là, hein, c'est-à-dire de ces tout petits 0 à 3 ans, ils vont poser leurs questions de quelle manière? Ils vont les poser par le jeu, par la mise en scène de leur corps, par une dimension phénoménologique. Là où je trouve qu'il y a beaucoup d'effets de rencontre entre ce type de pratique et une lecture qu'on peut avoir sur un plan cinématographique de ce que ça déploie sur un plan phénoménologique. Ce que, dans la résonance avec la clinique, m'a permis de poser comme base d'hypothèses que j'ai développées par la suite, c'est que je trouve qu'il y a une multifactorialité là qui m'a permis d'essayer de penser une voie possible Et peut-être une voie possible par des points structuraux qui permet ce mouvement d'émancipation des rapports de pouvoir. Or, cette multifactorialité qu'on retrouve dans le film, je la résumerai en 5 points, très rapide. D'abord, évidemment, cette question de la rencontre, hein, surtout quand le sujet en question vit dans un vase clos, dans un univers clos, dans une logique de clôture narcissique à ce point-là. Comment est-ce qu'une rencontre, comment est-ce qu'une rencontre avec l'altérité, comment est-ce qu'une puissance de la rencontre peut faire dérailler des logiques de destinée? Et derrière, les 4 autres points qui viennent se lier les uns aux autres, il y en a 2 qui sont, je pense, tout à fait classique, le développement d'une capacité sublimatoire et l'élaboration de la castration, j'en rajoute 2 autres, je l'ai dit, la rencontre, la puissance de la rencontre, et la question de la reconnaissance. La question de la reconnaissance dans toute la profondeur du terme, hein, évidemment pas la reconnaissance qui est du côté du paraître. Voilà, je m'arrêterai là.